Bonjour mes frères et mes sœurs. Vous connaissez-vous? Savez-vous qui vous êtes? Pourquoi vous êtes? Ce que Dieu attend de la part de vous, de chacun de vous? Pourquoi en effet sommes-nous sur cette terre? En fait, quel est le but de la vie? La Bible nous révèle la réponse à ces questions. Mais aujourd'hui, je désire vous poser une simple question. Vous connaissez-vous? Eh oui, vous connaissez-vous? Connaissez-vous vos défauts, vos faiblesses? Connaissez-vous vos problèmes, vos difficultés? Connaissez-vous la façon de sortir de cette situation dans laquelle vous vous trouvez? Qui êtes-vous en effet? Socrate, le grand philosophe, avait dit « Connais-toi toi-même ». Vous savez, c'est profond. Connais-toi toi-même. Le fait est que la plupart des gens ne se connaissent pas. Même au sein de l'Église, les gens ne se connaissent pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a en nous une nature charnelle. Cette nature charnelle, en quelque sorte, voile nos yeux. Nous ne pouvons pas regarder ou voir ce qui est en nous-mêmes, dans notre propre caractère. Et pourtant, nous voyons la faiblesse des autres. Nous pouvons voir quels sont leurs défauts. Nous pouvons voir quelles sont leurs difficultés. Mais le fait est que nous devrions d'abord voir nos propres problèmes, nos propres difficultés, et savoir comment en sortir. Voilà pourquoi je vous pose la question à nouveau. Qui êtes-vous? Vous connaissez-vous? Auparavant, nous avions, dans l'Église de Dieu, une brochure, ou bien plutôt un article, qui traitait des trois grands ennemis. Connaissez-vous vos trois grands ennemis? Eh bien, c'est très simple. D'abord, vous avez Satan le diable, car Satan le diable est encore le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Satan est le Dieu de ce siècle. Donc, ça, c'est le plus grand ennemi que nous avons. Dans tout ce que nous faisons, Satan sera là pour entraver le chemin et pour nous empêcher de réussir. Ensuite, le deuxième ennemi que nous avons, c'est la société autour de nous, le monde. Les tentations de ce monde, la convoitise de ce monde. Car cette nature humaine en nous tous, en vous et en moi, désire des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. Et pourtant, ça nous plaît. Cette lutte contre nous-mêmes est la chose la plus difficile. La lutte contre la nature charnelle. Parce que nous sommes charnels. Parce que nous voyons des choses qui nous plaisent. Voilà pourquoi le deuxième ennemi que nous avons, à part le Satan, c'est la société autour de nous. Troisièmement, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Notre nature charnelle, notre égoïsme, notre propre droiture, notre propre justice. Et oui, je voudrais vous parler aujourd'hui de cette propre droiture, de l'amour propre, si vous voulez. Ou bien même, si vous voulez, de la vanité, car Salomon a dit, avec toute la sagesse qu'il avait, il a dit, dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qui existe dans ce bon monde, la base, le résultat final, c'est la vanité. Il parlait de cette nature humaine. Il parlait de ce monde terrestre, pas des choses spirituelles. Car tout est vanité sur cette terre. Et nous sommes, nous, les victimes de cette vanité. Mais c'est quoi la vanité? La vanité, c'est l'orgueil. La vanité, c'est la fierté. La vanité, c'est l'amour propre, la propre justice. La vanité, c'est l'attachement aux choses matérielles. La vanité se révèle, je répète, en tant que propre droiture ou justice. Lorsque vous commencez à réfléchir sérieusement sur ce que vous êtes, qui vous êtes, et ce que vous devriez faire, vous pouvez constater une chose. Vos idées ne sont pas celles des autres, et les idées des autres ne sont pas nécessairement les vôtres. Et pourtant, nous avons tous une nature charnelle, mais chacun cherche à se plaire soi-même. Autrement dit, Vous pensez connaître les choses mieux que votre prochain. Vos idées à vous sont meilleures que celles des autres. Votre façon de faire les choses, d'après vous, c'est meilleur. Autrement dit, cette propre droiture, l'amour propre que vous avez. Souvent, votre amour propre est blessé. Quelqu'un vous dit une chose, c'est peut-être la vérité, mais ça vous blesse, votre amour propre, et vous réagissez humainement parlant. Dans les proverbes, nous trouvons pas mal d'instructions en ce qui concerne ce que c'est que la nature humaine. Et comment, actuellement, comment en réalité, lutter contre cette nature humaine. Par exemple, Proverbe chapitre 14, un proverbe très très connu, qui nous explique exactement ce que nous sommes et comment nous pourrions nous mieux nous connaître. Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, ou à une femme évidemment, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Réfléchissez, je vous prie. Une voie qui vous paraît droite, vous voulez la suivre, parce qu'elle vous plaît, mais son issue, c'est la mort. Ensuite, nous avons aussi toujours dans les proverbes, juste pour vous donner quelques idées, Proverbe 12, verset 15, Proverbe chapitre 12, verset 15. Nous avons vu, il y a quelques semaines, je pense, ce que c'est que le livre des proverbes. J'ai fait tout un sermon sur ce que c'est que l'insensé, d'après la Bible, d'après les proverbes. Donc, Proverbe 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. C'est intéressant. Les conseils de qui? De ceux qui sont proches de vous? De ceux qui cherchent auprès de vous une faveur? Non. Cherchez les conseils de ceux qui sont capables de vous donner des conseils. Ne cherchez pas des gens qui tâcheraient de s'approcher de vous pour gagner quelque chose. Votre amour propre, je répète, le vôtre ou le mien, c'est toujours une défense de soi-même. Nous avons chacun notre façon d'agir et de penser, mais le fait est que, comme vous pouvez voir, notre façon d'agir et de penser n'est certainement pas celle de Dieu, et même la plupart du temps celle de notre prochain. Moi, j'ai mes idées sur quelque chose. Vous, vous avez vos idées sur la même chose. Nous discutons automatiquement, nous ne sommes pas d'accord parce que moi je tiens à mes idées et vous tenez aux vôtres. C'est pas ainsi que nous arrivons à une entente cordial. Regardez ce qui se passe autour du monde. Regardez les nations. Depuis le commencement, chaque nation a fait la guerre contre une autre pour la paix. Mais comment est-ce que vous pouvez vous battre pour la paix si chacun des deux côtés se bat pour la paix? Autrement dit, on se bat pour la même raison et pourtant on se bat. On agit au nom du Christ. Des deux côtés, on prie pour que Dieu intervienne. Ça, c'est la nature humaine. Proverbe chapitre 26, verset 12. Proverbe 26, verset 12. Encore une autre vérité qui nous est nécessaire pour comprendre ce sujet important. Proverbe, oui, c'est 12, 26, verset 12. Attendez, je suis en train. Oui. C'est pas exactement ça que je cherche. Oui, si, si. Si tu vois un homme, regardez voir, si tu vois un homme qui se croit sage, autrement dit, examinez-vous vous-même. Vous vous croyez sage. Il s'agit toujours de votre amour propre. Autrement dit, votre propre justice. Si un homme, si je vois un homme qui se croit sage, Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. C'est assez fort. Autrement dit, vous pensez que vous êtes quelque chose. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes plus intelligent, meilleur que les autres. Eh bien, il y a plus d'espoir pour un insensé que pour vous. Voilà la définition, donc, de ce que la Bible appelle un insensé, que nous avons vu il n'y a pas longtemps. Mais revenons à notre sujet. Qu'est-ce que l'amour-propre? Qu'est-ce que l'égoïsme? Qu'est-ce que la propre justice? Nous connaissons tous l'explication de justice. Nous cherchons la justice partout, au tribunal, chez nous, en famille. Vous avez une dispute avec quelqu'un, vous voyez que justice se fasse. Mais justice d'après qui? D'après votre propre entente ou d'après la façon divine de voir les choses? Souvent même nous critiquons Dieu de la façon dont il vit les choses. Et j'en sais quelque chose, vous aussi. Lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes malade, en quelque sorte vous blâmez Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi ne fait-il pas quelque chose? Indirectement, nous blâmons Dieu. Nous ne pouvons pas voir de la justice divine et nous mettons notre propre justice devant la sienne. C'est vrai? Ce que je vous dis, c'est tout à fait humain. C'est vrai avec vous, c'est vrai avec moi. Nous cherchons une sorte de sortie, mais cette sortie que nous cherchons n'est pas la bonne. La seule façon d'arriver au point, c'est de savoir que Dieu est toujours juste, et nous ne le sommes pas. Dieu est toujours la bonne réponse, nous ne l'avons pas. Tout ce que Dieu fait est juste. Et tout ce que nous faisons n'est pas toujours juste. Alors, une fois que vous avez cette balance, cet équilibre-là, vous pouvez raisonner de façon saine. Commencez-vous à comprendre. La propre droiture, humainement parlant, n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. La propre justice n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Mais prenons d'abord l'apôtre Paul dans son épître aux Romains et voir comment l'apôtre Paul décrit la différence entre la justice divine et la justice humaine. Car il y a une différence. La justice divine nous amène à la vie éternelle. La justice divine nous permet d'arriver au but, tandis que la justice humaine nous amène à la mort éternelle. Il y a une différence, c'est certes. Romains chapitre 6, commençons par verset 16. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Tâchez de comprendre ce que l'apôtre Paul dit. Et pas entre parenthèses ici ou bien ouvertement, il y a quelque chose, quelqu'un à qui vous obéissez, ou à quoi vous obéissez. Il dit, soit vous êtes l'esclave de celui à qui vous obéissez. Ça, c'est important. Vous êtes l'esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, verset 16 toujours, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Regardez voir cette définition à nouveau. Si vous êtes l'esclave de l'obéissance à Dieu, l'obéissance aux lois divines, alors cela vous conduit à la justice. Cherchez-vous la justice? Voilà la réponse. Et Paul continue, verset 17. Mais de grâce soit rendue de Dieu à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, et nous le sommes tous, nous le tenons tous. C'est que voyez-vous, avant notre baptême, si nous sommes baptisés, nous étions esclaves du péché. Mais une fois que nous nous sommes fait baptiser, dès ce moment-là, nous recevons l'Esprit de Dieu et nous sommes, dès ce moment-là, esclaves de Dieu. Et Paul décrit en disant que, après avoir été esclaves du péché, dit-il, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. ayant été affranchis du péché, vous êtes devenu, dit-il, esclave de la justice. Verset 18. Regardez voir cette définition. Nous sommes maintenant esclaves de la justice. C'est ce que nous cherchons. Mais voyez-vous, la nature humaine n'aime pas le mot esclave. Le mot esclave a une mauvaise signification, interprétation pour nous. Il vaut mieux être esclave de Dieu en tout temps qu'esclave de notre nature charnelle. Bien que l'esclavage à cette nature charnelle nous plaise. Autrement dit, il faut mieux être esclave de la justice que maître de la vanité, de votre propre justice. Car votre propre justice, je le répète, vous amène à la mort éternelle. Je continue. Verset 19, Romains 6. De même, dit-il, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Et aussi, dit-il maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Voilà la sortie, voilà la solution. Voilà la réponse à tous vos problèmes. Livrez vos membres comme esclaves à la justice divine. Paul explique pour arriver à la sainteté. Dieu est saint, il veut que nous soyons saints. Dieu est juste, il veut que nous soyons justes. Nous pouvons arriver à cela seulement en ayant l'Esprit de Dieu en nous et en travaillant avec l'Esprit. Il y a toujours cette lutte entre la nature humaine et l'Esprit de Dieu. Et comme Paul dit ailleurs, il est presque l'esclave de cette lutte. Il dit, comment est-ce que je peux sortir de cet esclavage? La réponse est simple. Simple à comprendre, difficile à mettre en pratique. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons arriver à vaincre cette tendance humaine. L'injustice humaine disparaît lorsque la justice humaine est mise en pratique, mais cette lutte est très difficile parce que nous sommes encore charnels. Verset 20, Romains 6. Car est-il lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Autrement dit, pour autant que vous êtes esclaves du péché, il y a une barrière entre vous et la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la justice de Dieu. Mais une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, alors vous commencez à produire les fruits du Saint-Esprit. Vous n'avez qu'à lire le reste. Enfin, si, peut-être faut que je lise. Dis, quel fruit portiez-vous, verset 21? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Vous savez, c'est vrai. Si vous êtes baptisé, et lorsque vous regardez vous-même, et lorsque vous regardez vous-même pour voir exactement les péchés que vous avez commis par le passé, ça vous fait rougir. Ça vous fait quelque chose. Mais avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, ces mêmes péchés ne vous nuisent pas autant. Vous les regardez comme si c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous rougissions aujourd'hui, mais pas avant. Car la fin dit-il de ces choses, dit-il, verset 19, 21, c'est la mort. Et il définit ce que c'est que le péché. Il dit, Dieu vous a offert le Saint-Esprit, je paraphrase, et par ce Saint-Esprit, vous arrivez à la sainteté. Et ensuite, il conclut, verset 23, Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Un point, c'est tout. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous parlons de la propre justice. Nous parlons de l'amour propre, du vôtre et du mien. Nous parlons de la différence entre la façon humaine de penser et la façon divine de penser. Nous avons le choix, chacun de nous. Évidemment, si vous avez l'Esprit de Dieu, ce choix est beaucoup plus facile. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, peut-être vous avez une compréhension de ce qu'est la justice divine. Et cette lutte, que ce soit en vous, que ce soit en moi, est toujours la même. C'est une lutte constante. Nous y arrivons avec l'aide de Dieu. Regardez autour de vous, mes frères et mes sœurs. Regardez les tribunaux. Un criminel est acquitté car il est capable de se payer, mettons, un avocat comme il faut, très célèbre, ou bien il trouve des moyens de sortir de la justice qu'il mérite. Ça, ce n'est pas la justice divine. Dieu a dit dans la Bible que lorsque vous commettez un péché, il en déduit ou bien il en sort une conséquence, une amende. Et que nous devons payer cette amende. Il y a une amende à pécher pour tout péché. Il y a une amende à payer pour tout péché. Bon, cette amende peut être payée par vous ou bien par le Christ. Au moment du baptême, le Christ paie tout, l'amende de tous vos péchés, et vous êtes purifié. Mais dès ce moment-là, vous devez marcher dans la droiture, dans la justice divine, et non pas la propre justice humaine. Voilà la différence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que l'obéissance à Dieu vous mène à la vie éternelle. Je vous ai posé au commencement de ce sermon, vous connaissez-vous? Vos décisions sont-elles bonnes en ce qui concerne Dieu? Vos idées sont-elles bonnes en ce qui concerne Dieu? Vos relations avec quelqu'un d'autre sont-elles bonnes en ce qui concerne Dieu, d'après la façon divine de juger? Le fait est que la plupart du temps, ces relations sont bonnes en ce qui vous concerne. Vos rapports avec Dieu sont bons en ce qui vous concerne. Mais sont-ce vraiment les rapports que Dieu cherche en vous? Je répète, car la nature humaine a un raisonnement différent de la nature divine. Notez Ésaïe 64. Ésaïe 64 nous révèle une vérité, je dirais, non pas seulement fantastique, mais aussi déchirante. Ça nous brise le cœur. Car souvent, je répète, nous pensons être justes. Nous pensons faire ce qui est bon. Et pourtant, Dieu appelle cette justice humaine par quelque chose qui nous déplairait. Ésaïe 64. Commençons par peut-être je suis en train de prendre au milieu d'un verset. Non, prenons verset 1. Ésaïe 64, verset 1. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom et connaîtraient ton nom. Les nations trembleraient devant toi lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas. Tu descendis et les montagnes ébranlèrent devant toi. J'espère que vous comprenez de qui nous parlons, de ce que nous parlons. Jamais on n'a appris, dit-il, ni entendu dire, jamais l'œil n'a vu que notre Dieu que toi. Autrement dit, on parle maintenant de Dieu, de sa force. Fait de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Autrement dit, ce chapitre commence par la grandeur de Dieu, par la force de Dieu, par la sagesse de Dieu, par la droiture divine. Ensuite, ça continue. Tu vas devant de celui qui pratique avec joie la justice. Verset 4. Vous dites, regardez-moi, tâchez de comprendre. Vous dites à Dieu, tu vas au devant de celui qui pratique avec joie la justice, avec joie. De ceux qui marchent devant tes voies et se souviennent de toi. Voilà la clé, voilà la façon de sortir des souffrances humaines. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ce petit membre de phrase contient, je dirais, une vérité absolue. Car nous avons tous des difficultés à reconnaître nos péchés. Ici, lorsqu'on peut dire Dieu, tu es irrité contre moi car j'ai péché contre toi, c'est déjà le commencement de la conversion. Reconnaissez toujours vos péchés. Reconnaissez vos fautes, admettez-les. Alors dans ce cas-là, vous commencez à vous connaître vous-même. Continuons. Donc, tu as été irrité, mais parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Eh oui, en ce bas monde, c'est la souffrance la plupart du temps, car nous avons cette lutte avec la nature humaine. Et la nature divine qui est en nous, que nous recevons lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, cette lutte est toujours là. Cette lutte, parfois, évidemment, nous cause des souffrances, mais des souffrances qui nous mènent vers la vie éternelle. Nous sommes, dit-il, tous comme des impurs, verset 5. Ça, c'est la vérité. Voilà ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors ça, un vêtement souillé, vous ne voulez pas le porter. Et pourtant, toute notre justice humaine, c'est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, lorsque vous lisez la Bible, vos yeux s'ouvrent. Et après cela, vous avez un choix à faire. Vous me dites ce que je suis. Vous me dites quels sont mes péchés, quelles sont mes fautes. Et si vous avez parfaitement raison, mettons humainement parlant, il faut que je fasse quelque chose. Mais lorsque Dieu me montre mes péchés à moi, je sais qu'il a toujours raison. Lorsque j'étudie la Bible, lorsque je vois des enseignements divins dans la Bible, alors je sais que ce que Dieu dit est juste. Dès ce moment-là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je change ma façon de vivre. Autrement, je serai insensé. Autrement, je vivrai avec mon vêtement souillé. Vous savez, ça arrive dans les grandes villes, surtout lorsque vous vous promenez dans les rues. Parfois, vous voyez des mendiants gisés sur la chaussée, avec des vêtements souillés. Eh bien, aux yeux de Dieu, c'est ce que nous sommes, vous et moi, des gens qui gisent sur la chaussée avec des vêtements souillés. C'est pas beau à voir. Et c'est pas beau à voir non plus de la part de Dieu de nous voir ainsi avec un vêtement souillé. Changeons de vêtement, divinement parlant, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, et faisons des choses à la façon divine. Vous verrez la différence. Vous savez, j'ai vu tellement d'exemples dans ma vie. Des exemples des gens qui étaient avec nous dans la vérité et qui ne sont plus avec nous dans la vérité. Vous savez pourquoi? C'est toujours cette propre droiture, cette propre justice. Voilà ce que je pense, disent-ils. Ce que vous pensez, ce que je pense, n'a absolument aucune valeur devant Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Alors là, vous avez la différence entre la propre justice et la justice divine. Une fois que vous connaissez cette vérité sublime, alors vous êtes sur la bonne voie. J'ai vu tellement d'amis de sortir de la voie de la vérité biblique parce qu'ils sont des victimes, ils sont fait victimes de leur propre droiture. Ils pensent, eux, avoir raison. Plutôt qu'avoir la Bible devant eux, suivre le gouvernement divin, se soumettre au gouvernement divin. Mais lorsque vous dites, voilà ce que je pense, et que vous suivez vos propres penchants charnels, vous êtes sur la mauvaise voie. Vous vous dirigez vers la mort. Et s'il n'y a pas de repentance, ça sera la mort éternelle. Commencez-vous à comprendre? Matthieu chapitre 7, le sermon sur la montagne. Le Christ, dans son sermon sur la montagne, nous montre comment nous débarrasser de notre propre nature charnelle. Comment nous débarrasser de cette propre justice que nous avons tous, l'amour propre, de l'orgueil, de la vanité. Appelez cela comme vous le voulez. Matthieu, chapitre 7. Ici, le Christ parle justement de l'attitude humaine et comment nous devons nous sortir de cette nature charnelle et commencer à agir la façon dont Dieu veut que nous agissions. Matthieu 7, il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ça veut dire quoi ça? Car lorsque vous commencez à juger, vous commencez à juger d'après votre façon de penser et de voir les choses. Vos pensées ne sont pas meilleures que les miennes, et les miennes ne sont pas meilleures que vous, humainement parlant. Donc, dès ce moment-là, voyez-vous, c'est un jugement mauvais. Lorsqu'on se juge les uns les autres. Car dit-il, on vous jugera, maintenant c'est Dieu qui va vous juger, mon juger, on vous jugera du jugement dont vous jugez. On vous mesurera, dit-il, avec la mesure dont vous mesurez. Ensuite, le Christ nous montre une vérité simple. Une vérité absolument banale, et pourtant nous sommes aveugles pour ne pas nous en être conscients. Il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et on voit, vous, moi, nous avons toujours cette tendance. Voilà ce qui ne va pas avec toi. Voilà tes fautes, voilà tes péchés. Nous voyons facilement les fautes de notre prochain. Et pourtant, dit, n'aperçois-tu pas, dit-il, la poutre qui est dans ton œil? Il y a une différence entre la paille et la poutre. Nous ne voyons pas, nous, la poutre qui est dans notre œil. Nous voyons la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Ou comment peux-tu dire, dit-il à ton frère, verset 4, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans ton œil, dans le tien. Il appelle ça hypocrite. Et ensuite, il donne la solution qui est très simple. Ôte, dit-il, premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Des choses faciles à comprendre, mais difficiles à mettre en pratique. Voilà la différence, je répète, entre la nature humaine et la nature divine. La justice humaine et la justice divine. Dieu, dans tout ce qu'il fait, il agit de façon à ce que vous puissiez vous arriver au but pour lequel vous êtes né. Et cela s'applique à tout le monde. Devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Que nous soyons petits ou grands, talentueux ou non, femmes ou hommes, ça n'a pas d'importance. Quelle que soit notre nationalité, nos races, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et Dieu veut que nous puissions arriver au but. Mais on peut seulement arriver au but en suivant la justice divine, et non pas la justice humaine. Ce qui me fait de la peine, personnellement parlant, depuis des années, je proclame, je prêche, que ce soit à la radio, que ce soit par les écrits, je vois des gens qui m'écrivent. Je lis ce qu'ils m'écrivent. Lorsque, parfois, pas toujours, j'ai l'occasion de les rencontrer, lorsque nous commençons à discuter un petit peu, tout d'un coup, je vois la différence. Ils disent, oui, ce que vous dites, c'est juste, mais... Et ensuite, ces gens-là commencent à expliquer leur point de vue. Bon, je veux bien écouter votre point de vue, mais votre point de vue, comme le mien, ne vaut pas grand-chose. C'est le point de vue divin qui compte. Ils nous écrivent, peut-être vous êtes du groupe, je ne sais pas, en disant, écoutez, ce que vous prêchez, c'est formidable, mais lorsque nous entrons dans les détails, ils ne sont plus d'accord. Les détails sont importants, pour autant que ces détails soient fondés sur le principe divin. Vous savez ce qui se passe? Souvent, les gens cherchent une excuse pour trouver une sortie, entre guillemets, honorable. Laissez-moi vous donner un exemple biblique. Jean chapitre 18. Un exemple frappant. Ici, nous avons un gouverneur romain qui était convaincu que le Christ était innocent. Parce que même sa femme a dit, écoute, tu sais que ce Jésus-là n'est pas coupable. Je parle de Pilate. Pilate savait que le Christ était innocent, mais il voulait écouter le peuple parce qu'il ne voulait pas perdre son emploi ou bien son poste. Alors, il devait choisir entre la justice divine et la justice humaine. Était-lui capable d'arrêter la crucifixion du Christ, pour ainsi dire? Mais il avait peur et il voulait se protéger lui-même. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà l'exemple de beaucoup de gens aujourd'hui. Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 18. Verset 37-38, je prends juste une partie. Pilate, donc, commençons par 33, verset 33. Jean 18, 33. Pilate rentra dans la prétoire, appela Jésus, lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Il pose une question. Est-il vraiment intéressé à la réponse? Le Christ a dit, « Est-ce de toi-même que dis-tu cela ?» Voyez-vous, le Christ savait fort bien, connaissait la nature de Pilate. Il dit, « Est-ce vraiment toi qui poses cette question ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Et Pilate, c'est pas Pilate, tout d'un coup dans son orgueil, il dit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation a été, et les principaux sacrificateurs, dit-il, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Voyez-vous, ces questions que Pilate pose, est-ce qu'il est vraiment intéressé à la réponse? Ça peut être votre cas, ça peut être mon cas. Nous avons parfois des cas pareils. Nous cherchons à comprendre, mais avant tout, nous voulons nous défendre nous-mêmes, protéger notre poste, nous protéger nous-mêmes. C'est ce qui se passe ici, voyez-vous, il pose des questions, mais il n'est pas vraiment intéressé. Il dit, ta nation, donc, les principaux sacrificateurs t'ont livré entre mes mains. Et le Christ lui a répondu, totalement, de façon différente, dont Pilate vraiment s'attendait, parce que Pilate ne comprenait pas. Le Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas venu pour être roi. Pilate lui dit, es-tu roi? Le Christ dit, tu comprends pas. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, dit-il, auraient combattu pour moi. Mais maintenant, dit-il, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que le royaume de Dieu n'était pas encore établi sur cette terre. Il ne l'est toujours pas. Il le sera lorsque le Christ reviendra. Ensuite, Pilate, verset 37. Regardez-moi cette révélation incroyable. Pilate a entendu une vérité qu'il ne comprenait pas, mais il savait fort bien que les questions qu'il posait, les réponses qu'il recevait, ne donnaient pas satisfaction à sa nature charnelle. Et il voulait donc se préserver lui-même, se conserver ou bien se protéger. Alors, verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Et commence maintenant à se demander qu'est-ce qui se passe. Jésus lui a dit, je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui pose une autre question. Qu'est-ce que la vérité? Voilà. Lorsque vous posez la question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez la réponse? Vous voulez savoir quelle est la réponse? Mais la Bible dit, après avoir dit cela, il sortit. Incroyable. Il pose une question, il n'attend même pas la réponse. Voilà la justice humaine. Voilà la nature humaine. Voilà l'idiotie humaine. Et nous sommes tous pareils. Donc, regardez voir. Après cette comédie, ça c'est une comédie de la part de Pilate. Après avoir posé des questions, après avoir demandé qu'est-ce que la vérité, il sort. Verset 38. Il sort pour aller vers les Juifs. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a vraiment dit après avoir interviewé, pour ainsi dire, le Christ? Je ne trouve aucun crime en lui. Eh bien, ça, c'est formidable. Il est là, il a le pouvoir, il ne trouve aucun crime, mais pour se protéger, il le condamne. Et vous savez quoi? Il s'est lavé les mains. Eh bien, je ne suis pas coupable. Souvent, mes frères et mes sœurs, nous nous lavons les mains lorsque nous sommes coupables. Plutôt que de reconnaître nos fautes et de nous laver l'esprit, de nous débarrasser de notre orgueil, de notre vanité. Là, c'est une vérité fantastique. Nous savons tous, même que vous connaissiez la Bible ou non, tout le monde connaît cette histoire que quand on veut se débarrasser de quelque chose, on se lave les mains. Mais ce n'est pas la réponse divine. Depuis le commencement, vous savez, en quelque sorte, l'homme a voulu choisir la voie de la nature humaine. Adam et Ève, dès le commencement, avaient tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pouvaient vraiment rêver. Mais ils ont choisi la voie humaine, la voie de la propre droiture. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout au long de l'histoire, les hommes ont toujours choisi leur propre voie. Dieu a envoyé des prophètes, des mineurs, des majeurs. Esaïe a fait toutes sortes de prophéties. Jérémie, Ézéchiel ont dit ce qui va se passer si les gens, si les hommes suivaient leur propre droiture. Résultat, les hommes n'ont pas suivi leur propre ils ont suivi leur propre droiture et non pas la justice divine. Regardez aujourd'hui encore autour de vous. Alors que je vous parle, nous avons des guerres et des bruits de guerre. Chacun pense avoir raison. Chacun parle au nom de Christ, comme j'ai dit, ou bien de Dieu. Et pourtant, on se déteste. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est sourd? Non, Dieu n'est pas sourd. Est-ce que Dieu est aveugle? Non, Dieu n'est pas aveugle. Est-ce que Dieu est conscient de ce qui se passe? Oui, Dieu est conscient de ce qui se passe. Dieu veut nous aider. Mais voyez-vous, comment est-ce que vous pouvez aider quelqu'un si cette personne ne veut pas avoir votre aide? Vous avez quelqu'un qui ne sait pas marcher, vous lui tendez la main. Vous dites, tiens, donne-moi ta main, nous marchons ensemble. Il dira non. Alors, s'il ne veut pas prendre votre main pour marcher ensemble, s'il tombe, pouvez-vous blâmer vous-même ou bien la personne qui vous tend la main? Tout au long de la Bible, Dieu vous tend la main. Tout au long de la Bible, les gens repoussent la main de Dieu et veulent agir après leur propre droiture. Et ils disent, où est Dieu? Vous savez, j'ai entendu cette phrase, je ne sais pas combien de fois. Lorsque je parle aux gens, lorsque je conseille, après, lorsqu'ils m'invitent à leur parler, je vois toujours les mêmes questions. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas quelque chose? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Pourquoi est-ce que Dieu fait la sourde oreille? C'est nous qui sommes aveugles. C'est nous qui faisons de la sourde oreille. Dieu est toujours là. Dieu, à travers la Bible, nous montre la vérité. Dieu, à travers les prophètes, nous dit, nous a dit, et nous dira encore ce qui passe, ce qui va se passer, ce qui se passera. Notez Esaïe, chapitre 1. Encore une vérité fantastique qui nous est révélée. Esaïe nous montre exactement l'attitude humaine envers Dieu et comment Dieu lui-même, en quelque sorte, humainement parlant, en souffre. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que nous souffrions. Il veut que nous puissions réussir avec le moins de souffrance possible. Esaïe chapitre 1. Prophète d'Esaïe. C'est la prophétie d'Esaïe. Verset 2. Esaïe chapitre 1, verset 2. Cieux, c'est Dieu qui parle. Autrement dit, voyez-vous, à qui est-ce que Dieu parlerait? Pour qu'il puisse se faire comprendre. Il fait appel aux cieux. Autrement dit, l'univers tout entier. Il dit, cieux, dit-il, écoutez, terre, prête l'oreille. C'est une façon poétique, si vous voulez, d'accord. Mais autrement dit, Dieu nous montre combien il nous aime. Il fait appel à tout ce qu'on peut vraiment imaginer, à tout ce qu'il a créé. Il dit, quand l'Éternel parle, j'ai nourri, élevé tes enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Voilà la justice humaine et la justice divine. Les gens se révoltent contre Dieu. Ensuite, Dieu dit, verset 3, le bœuf connaît son possesseur. L'âne, la crèche de ses maîtres. Mais dit-il, Israël, mon peuple, ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, dit-il, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Voilà. Voilà où nous en sommes. Voilà la différence entre la nature humaine et la nature que Dieu veut que nous ayons grâce et par son Saint-Esprit. Alors, mes frères et mes sœurs, commencez-vous à comprendre ce que c'est que cette vanité en vous et en moi, cette propre droiture que nous avons, l'amour propre. Oh, vous savez, oh, il va blesser l'amour propre. Ah bon? C'est bien. Si quelqu'un blesse votre amour propre, peut-être c'est une bénédiction. Que ce soit fait dans la bonne attitude, évidemment. Le fait est qu'avant toute chose, cherchez à savoir ce que Dieu attend de la part de vous. Et ensuite, quel que soit le prix à payer, faites-le. C'est pas facile, non, ce n'est pas facile, mais ça c'est la seule façon d'arriver au but. Prenons, nous qui sommes dans l'Église de Dieu, prenons notre exemple. Nous avons reçu le Saint-Esprit après notre baptême, après l'imposition des mains de la part du ministre. Bon, que faisons-nous après avoir reçu le Saint-Esprit? Quelle est notre attitude? Si nous continuons à marcher avec notre propre droiture, si nous suivons le chemin de l'amour propre, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes jamais meilleurs que les autres. Mais au moins, la façon d'agir ne sera pas meilleure que celle des autres. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous devez agir différemment de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Cette vanité, cet orgueil, cet amour propre doit mourir. Autrement, nous ne sommes rien. Le Christ a une parabole qui décrit cette attitude. Cet orgueil, cette propre voiture. Luc chapitre 18. Une parabole que nous connaissons très bien, mais prenez ça vous-même, personnellement. Vous qui aimez Dieu. Vous qui voulez obéir à Dieu. Il se peut que vous obéissiez à Dieu, vous observiez le sabbat, vous observiez les fêtes de l'Éternel, et que vous observiez les 10 commandements. C'est très bien, formidable. Il se peut que vous fassiez tout ce que la Bible dit. Mais, est-ce que vous avez vraiment conquis votre amour propre, votre propre justice? Est-ce que vous êtes orgueilleux, toujours? Est-ce que vous pensez être meilleur que les autres parce qu'ils n'ont pas, eux, cette compréhension que vous avez? Dans ce cas-là, vous n'êtes pas vraiment sur la bonne voie. Ou peut-être sur la bonne voie, mais vous ne suivez pas cette voie, vous êtes arrêté sur cette voie. Luc chapitre 18, le Christ parlait justement à des gens qui n'étaient pas convertis. Et il montrait ici leur attitude. Il montre l'attitude dans une parabole de deux personnes différentes. L'une avait une bonne attitude, l'autre pensait avoir une bonne attitude. Verset 9, Luc 18. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Quelle avance ça? Voilà, cette parabole résume tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Des gens qui se croyaient justes. Et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes, dit-il, verset 10, montèrent au temple pour prier. Nous devons prier. Nous devons toujours prier. devons demander à Dieu, certes, ce dont nous avons besoin, mais avant tout, prier pour lui dire merci, pour témoigner notre reconnaissance à Dieu. C'est ça la base de la prière. La prière n'est pas seulement « donne-moi, donne-moi, donne-moi quelque chose ». La prière, c'est surtout « merci, merci et merci ». Donc, deux hommes montés au temple pour prier. L'un des pharisiens, la Bible appelle hypocrite, la plupart du temps les pharisiens. L'autre était publicain. Publicain était méprisé par les autres. Voilà maintenant de l'attitude de pharisien. Si c'est ça votre attitude, mes frères et mes sœurs, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est que votre conversion n'est pas vraiment réelle. C'est que vous ne comprenez pas la différence entre la justice divine et la justice humaine. Il se peut que ce pharisien dit soit vrai. Je ne doute pas. Pharisien, donc, debout, priait ainsi dehors lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Wow. Autrement dit, il se croit important, il se croit meilleur. Il se peut qu'il fût ainsi, je ne sais pas. Il dit, les autres sont ravisseurs. Voyez-vous, ils commencent maintenant à juger. Injuste, adultère. Ensuite, dès que vous êtes sur ce mauvais chemin, voyez-vous, maintenant vous commencez à faire des suppositions. Ou même, ce publicain, dit-il, qui était à côté de lui. Mais ce publicain, il ne le connaissait pas. Comment est-ce que vous pouvez juger quelqu'un qui est à côté de vous, qui prie, comme vous? Il se peut que ce pharisien, comme il dit, regardez-moi, laissez-moi citer, il dit, qui sont, dit-il, ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce pharisien, je jeûne, verset 14, verset 12. Regardez-moi, il se peut que ce soit le cas, je jeûne, dit-il, deux fois par semaine, formidable. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il se vante. Il se croit important. Il a fait de bonnes actions, et c'est vrai, mais avec cette attitude, il n'ira pas très loin. Tandis que le publicain, qui n'avait pas, peut-être ces mêmes moyens, je ne sais pas, se tenant à distance, verset 13, n'osait même pas lever la tête. Il se frappait la poitrine. Il avait l'attitude. Le Christ décrit l'attitude des deux autres, des deux personnes ici, très clairement, en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Regardez voir. Ce publicain reconnaît ses fautes. Il ne blâme pas les autres. Il ne dit pas qu'il a versé ses dîmes, tout ça, je ne sais pas. Tout ce qu'il dit, « Je suis pécheur, aide-moi. » Aide-moi à comprendre, aide-moi à sortir de mon état. Et le Christ a dit, je vous dis en vérité, dit-il, quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Commencez-vous à comprendre ce que c'est que la justice humaine et la justice divine. Commencez-vous à comprendre ce que c'est que vraiment comprendre la vérité et suivre. Toujours dans la même idée, prenez Matthieu chapitre 7. Mais encore, parce que parfois, nous pensons être justes, et nous jugeons les autres. Cette propre droiture en nous-mêmes nous mène sur le mauvais chemin. Matthieu 7, c'est toujours cette même idée du pharisien, verset 21. Je ne dis pas que c'est le cas avec tout le monde, non, mais le Christ nous montre ici comment nous pouvons être sur le mauvais chemin tout en pensant être dans le bon. Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais il s'agit de qui? Des gens qui croient, des gens qui prient, des gens qui sont dans l'église peut-être, je ne sais pas, parce qu'il dit, ils prient. Mais ces gens n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de notre Père, c'est que nous soyons humbles. C'est que nous soyons, nous, petits, d'après notre façon de juger. La volonté de notre Père, c'est que nous ne jugions personne. La volonté de notre Père, c'est que nous voyons, nous cherchions de la justice divine et non pas notre propre justice. Et il continue, verset 22. Plusieurs me diront, ce jour-là, lorsque le Christ sera ici, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons, tout ce que vous voulez? Autrement dit, n'avons-nous pas agi en tant que chrétien? Peut-être c'est le cas. Mais si vous avez agi en tant que chrétien et vous avez suivi le chemin de votre propre droiture, la réponse du Christ, c'est « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous savez, ces choses-là, nous les lisons et parfois nous les ignorons. Nous savons et parfois nous fermons les yeux. Je me rappelle un jour, il y a longtemps de ça, j'étais en Suisse. Je parlais avec quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit, mais il n'avait pas vraiment travaillé avec le Saint-Esprit. Il n'avait pas fait des efforts nécessaires pour croître, pour avancer. Alors, un jour, j'ai entendu qu'il souffrait énormément. J'étais le voir en Suisse. Il était au lit. Il souffrait énormément. Il dit, monsieur Partian, vous savez, j'ai découvert une chose. Il dit, tiens, et qu'est-ce que vous avez découvert? Il m'a montré 1 Corinthiens chapitre 2. Je dis si parce que c'est pour vous montrer comment nous nous comportons parfois, comment nous jugeons, comment nous faisons un détour de la vérité. Alors, il citait justement 1 Corinthiens chapitre 2, une différence entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Et lui, qui s'était fait baptiser, il pensait donc avoir, et c'est juste, l'esprit de Dieu en lui. Alors, il a cité verset 14, 1 Corinthiens 2, 14. Il dit, l'homme animal, dit-il, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il dit, voyez-vous, mais ça appartient, je ne suis pas homme animal parce que je reçois l'Esprit de Dieu. Maintenant, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Bon. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Il a pris ce verset. Alors il dit, voyez-vous, je suis maintenant, j'ai reçu le Saint-Esprit, donc je suis un homme spirituel. Voyez-vous le raisonnement humain. Donc, personne ne doit me juger, et ce que je fais, c'est juste, car je suis sur la bonne voie. Eh bien, cet homme, malheureusement, est mort dans cette ignorance. Est mort dans cette souffrance. Non, nous ne sommes pas spirituels lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui est spirituel. Cet Esprit nous guide dans la bonne voie, d'accord, mais nous sommes toujours charnels. Nous sommes toujours l'homme animal. Certes, nous devons lutter contre cet homme animal, contre cet esprit charnel. Par l'Esprit de Dieu, nous devons lutter, d'accord. Mais dès le moment où vous dites, moi, je sais les choses parce que je suis spirituel, dès ce moment, vous êtes esclave du péché, esclave de Satan. Je regrette, j'aimais bien cet homme. Peut-être un jour il comprendra, peut-être un jour il saura comment s'approcher de Dieu mieux qu'il ne l'a fait durant cette vie. Eh bien, vous direz-ce que tout ce que nous prêchons, est-ce que nous prêchons, c'est toujours la vérité? Oui. Seulement, voyez-vous, il y a certaines choses dans la Bible que nous ne comprenons pas. Moi, je suis le premier à vous dire, en tant que ministre de Dieu, il y a des choses dans la Bible que je ne comprends pas. D'une façon générale, je comprends ce qui est de base, d'accord? Je comprends la voie à suivre, d'accord? Je comprends ce que c'est que les enseignements du Christ, d'accord? Mais il y a certains passages de la Bible qui sont obscurs encore. Donc, si vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre, vous savez la réponse que je donnerai? Je dirai, je ne sais pas. C'est pas honte de dire que je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu nous révèle toujours l'essentiel pour que nous puissions suivre ces instructions. Vous me direz par exemple, pourquoi observez-vous le sabbat? Je connais la réponse, je vous répondrai. Mais vous me poserez certaines questions sur certaines prophéties qui sont passées par le passé, et c'est un peu compliqué, je dirais, je ne connais pas les réponses exactes. Alors, que dois-je faire? Parce que je ne connais pas la réponse, j'agis à ma façon? Non. Là encore, nous avons l'exemple du Christ. Regardez dans Jean chapitre... Non, Matthieu chapitre 13. Plutôt Jean chapitre 13. Voilà la façon dont on voit les choses. Le Christ était avec ses disciples. Les disciples n'étaient pas convertis, n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Voilà que le Christ se met à laver les pieds de ses apôtres. Regardez voir ça. Le Christ, lui, le chef, le créateur suprême, lave les pieds de ses apôtres. L'apôtre Pierre n'a rien compris. Il dit non. Il dit, tu me laveras jamais les pieds. Verset 7. Jean 13, verset 7. Alors le Christ a dit, ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas maintenant, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Voilà une phrase que j'ai souvent citée. Et souvent, je me rappelle, je me souviens de cette phrase. Ce que je ne comprends pas maintenant, je comprendrai un jour. Mais entre-temps, j'obéis. Comme j'ai toujours dit, l'obéissance doit précéder la compréhension d'une chose. Si vous voyez dans la Bible un commandement de Dieu, même si vous ne le comprenez pas, obéissez à ce commandement. Obéissance précède la compréhension. Une fois que vous avez cette base, vous êtes sur la voie de la justice divine. Et vous avancez dans la bonne voie. C'est, l'apôtre Paul dit la même chose, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Parce que l'apôtre Paul lui-même devait faire face à beaucoup de gens qui lui posaient des questions et il n'avait pas nécessairement toujours les réponses, il ne savait pas. Alors comment est-ce qu'il a répondu? Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi, comme on dit. Hébreux chapitre 11. Verset 3. C'est simple. Voyez-vous, il faut être simple d'esprit, si vous voulez, ou bien se débarrasser de cette nature humaine, de cette propre justice, mais ce faisant, voyez-vous, la voie est très facile. L'apôtre Paul dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la puissance de Dieu. Techniquement, je ne peux pas expliquer. Mais je sais que c'est par la foi, et ça c'est supérieur à toute compréhension, à toute intelligence. Donc si je ne connais pas, j'accepte par la foi ce que Dieu révèle dans la Bible. C'est par la foi, dit-il, qu'il a formé donc le monde, en sorte que ce qu'on voit, dit-il, n'a pas été fait des choses visibles. Alors, résumons de tout maintenant, où en sommes-nous? Le premier homme, le premier couple, a été victime de sa propre droiture. Satan le diable, Satan existe toujours. Satan n'était pas toujours dit Satan. Satan n'était pas toujours ce que nous savons maintenant d'après la Bible. Satan a été victime de sa propre justice. Satan a été victime de sa propre sagesse. Notez-le. Avant de terminer, prenons Ésaïe chapitre 14. Je vois que je ne pourrais pas terminer ce sermon, mais vous n'avez qu'à faire le reste vous-même, c'est-à-dire étudier sincèrement dans la Bible ce que c'est que la propre justice humaine, l'amour propre et la justice divine. Dans Ésaïe chapitre 14, Dieu décrit la nature de Lucifer. À l'époque, Satan n'était pas, je répète, la créature que nous connaissons aujourd'hui, c'était un archange. Verset 12, Ésaïe 14, verset 12. Toi la tombée du ciel, voyez-vous, Satan est tombé de son trône. Astre brillant, c'est le nom de Satan, astre brillant, avant d'être tombé. Fils de l'aurore, tu as abattu de toute la terre, toi le vainqueur des nations, ton mandat était grand. Pourquoi? À cause de la vanité. Tu disais en ton cœur, dit-il, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des anges de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée de l'orgueil. Il va avoir arrivé au but à sa façon. Je serai semblable au Très-Haut, verset 14. Résultat, verset 15. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs du fossé. Ceux qui te voient, dit-il, fixent sur toi leur regard, etc. Autrement dit, voyez-vous, voilà le résultat final. D'une part, vous cherchez la justice divine, vous êtes sur la bonne voie, et vous avez toujours cette lutte entre vous-même et la voie divine. D'autre part, vous suivez la voie de Satan, l'orgueil, l'amour propre, la vanité, c'est la voie de la mort. Pour terminer, laissez-moi citer encore un verset important qui résume le tout, si vous voulez. Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul résume tout cela, la justice divine. Et je répète souvent, cette justice divine, nous ne la verrons pas. Car nous raisonnons d'après notre façon humaine, charnelle, de penser. Et la seule façon d'y arriver, c'est de fermer les yeux, humainement parlant, à votre compréhension et d'ouvrir les yeux pour voir ce que la Bible dit et accepter sans même questionner. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, qui est assis à la droite de ton Père, de Dieu, affectionnez-vous. Nous ne sommes pas encore ressuscités avec le Christ. Mais nous avons l'Esprit du Christ en nous, le Saint-Esprit. Alors, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur cette terre. Vous êtes mort, dit-il, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Autrement dit, cette différence entre un esprit charnel qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu et un esprit charnel qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Votre vie, dit-il, est cachée avec le Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous connaîtrez aussi, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans ce seul verset, l'apôtre Paul nous donne le but de la vie. Nous arrivons à ce but de la vie par la sagesse divine, par la bonté divine, par la justice divine, et non pas par notre propre justice. Mes frères et mes sœurs, je vous pose la question que je vous ai posée au commencement de ce sermon. Connaissez-vous vous-même? Appréciez-vous la sagesse divine? Appréciez-vous la bonté divine? Appréciez-vous la justice divine? Si tel est le cas, suivez la Bible, suivez les commandements de Dieu, faites ce que Dieu vous demande de faire en toutes occasions. Ne soyez pas insensé. Parfois, lorsque vous examinez vous-même, vous voyez peut-être inférieur aux autres. Ça n'a pas d'importance. Si vous n'êtes pas inférieur aux yeux de Dieu, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qui compte. Soyez reconnaissant à Dieu que vous avez les moyens de lire la Bible, d'étudier la Bible, de comprendre la Bible. Et si vous avez besoin d'aide, adressez-vous à nous. Nous serons contents de vous aider. Je serai content de vous expliquer les choses que je dis maintenant. Si peut-être vous n'avez pas compris, contactez-nous. Nous serons contents de vous aider. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous une chose. Dieu veut que nous puissions réussir. Et il nous donne à nous tous les moyens d'y parvenir, les moyens de parvenir à la gloire éternelle.